Le quart d'heure e-sport, une émission sur l'actualité et l'agenda des tournois e-sport amateurs, semi-professionnels et professionnels, locaux, nationaux ou internationaux. Retrouvez-nous tous les dimanches à 13h sur le 91.1 FM pour Blois et ses environs, et aussi sur studiozef.fr. En attendant, retrouvez le quart d'heure e-sport sur Twitter, sur Instagram et aussi sur Discord. Bonjour à tous et bienvenue dans le quart d'heure e-sport. Depuis la création du quart d'heure e-sport en 2019, je parle régulièrement dans mes émissions des compétitions professionnelles bien sûr, mais aussi des tournois amateurs et semi-professionnels. Si aujourd'hui on parle principalement de l'e-sport professionnel avec ses joueurs stars, ses clubs e-sport professionnels et aussi ses tournois avec du cash prize à plusieurs dizaines de milliers d'euros diffusés partout à travers le monde, il existe bel et bien l'e-sport amateur. Dès les années 2000, en France, l'e-sport amateur est principalement géré par des associations e-sportives réparties aux quatre coins de l'Hexagone et des Dom-Tom. Parmi les nombreuses associations e-sport existantes, on peut citer notamment la Lyon e-sport, l'Alliance de passionnés d'e-sport ou encore le Smash Blaisois. Aujourd'hui, on compte près de 1200 associations e-sport réparties sur l'ensemble du territoire. En règle générale, les associations e-sport, soit elles organisent des compétitions amateurs et semi-professionnelles. C'est le cas notamment de la Gamers Assembly, une LAN organisée par l'association e-sport Poitevine, Futurolan, ou encore de la Nantes Arena, une LAN organisée par l'association étudiante Réseau. Soit elles font de l'accompagnement de joueurs pour les aider à devenir à terme des joueurs professionnels. C'est le cas notamment de AAA, un média e-sport qui a accompagné durant plusieurs années des joueurs sur différents jeux, de Restart e-sport Club ou encore de l'association Metallic. Mais cependant, l'e-sport amateur a du mal à trouver sa place au sein de l'écosystème e-sportif français pour diverses raisons, notamment par manque de structuration de la pratique ou encore par manque de moyens financiers et humains. Il existe d'autres raisons qui seront abordées tout au long de cette émission. Dans cette émission, je serai accompagné de Tristan Brandilly, président de l'association Restart e-sport Club et président de la Fédération française de jeux vidéo. Avec moi, il y aura aussi Alexandre Dubé, alias Moka, président de l'Union des associations e-sportives françaises et président de l'association Metallic. Et dernier invité de cette émission, Méziane Bourra, présidente de l'association e-sport Untag Gaming, à propos de l'e-sport amateur en France. Pour information, cette émission sera découpée en deux parties. Une première partie de l'émission qui est diffusée aujourd'hui. Enfin, une seconde partie de l'émission qui sera diffusée le 17 décembre prochain sur Studio Zef. Tout de suite, la première partie de l'interview. Bonjour Méziane, bonjour Alexandre et bonjour Tristan. Merci de m'avoir accordé du temps pour cette interview. Pouvez-vous vous présenter et aussi l'association que vous représentez ?
On commence comme on veut.
Ouais.
Ok, eh ben, écoute, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Alexandre Moka Dubé. Je suis président de l'association Metallic, qui est une association qui a 10 ans d'existence et qui a encore 15 ans d'existence auparavant sous forme communautaire. On est principalement aujourd'hui dans l'activité événementielle, accompagnement des territoires et développement des sports amateurs dans l'éducation nationale sur les territoires et pour les entreprises en team building ou journée récréative. Et je suis depuis hier soir président de l'Union des associations e-sportives de France, aussi appelée UAEF, qui travaille donc sur le recensement, l'accompagnement et le développement de l'entité associative dans l'écosystème e-sportif en France. Et je travaille avec France e-sport sur la structuration et le développement des antennes, notamment Île-de-France, parce qu'on est domicilié dans le 92, et puis ça sera déjà pas mal. Voilà.
D'accord, je vais laisser la parole à Tristan.
Bonjour, moi c'est Tristan, je suis président de l'association Restart e-sport Club, qui est une association qui existe, qui est regroupée sous forme de club e-sportif et qui existe depuis presque 10 ans, qui a fêté ses 9 ans il n'y a pas très longtemps. Puis à côté de ça, depuis 2020, je suis également président de la Fédération française de jeux vidéo, qui regroupe une trentaine d'associations partout en France qui œuvrent dans l'événementiel, de la sensibilisation et puis aussi qui œuvre aussi en tant que club e-sportif.
D'accord. Et à toi, Méziane.
Ok, merci. Du coup, Méziane, je me présente. Je suis le président de l'association Untag Gaming. Je crois qu'on existe depuis 2018-2019, même si on a commencé un petit peu à bosser dans l'e-sport amateur un petit peu avant. On était une association qui organisait des événements sur Super Smash Bros. Pendant environ 2 ans. Et plus récemment, comme on a moins de staff, on se concentre sur l'accompagnement de joueurs compétitifs et toujours sur Smash.
Bah, tu accompagnes notamment le joueur Donut qui participe aux différents tournois sur Orléans notamment.
C'est ça, c'est exactement ça. Et sinon, je stream de mon côté, je continue aussi de temps en temps à faire quelques tournois, mais ça reste vraiment très... On va dire que mon passé de joueur est derrière moi. Ouais, c'est ça.
D'accord. Bah, vous avez parlé pas mal de choses intéressantes, et ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que l'e-sport amateur selon vous ?
Si on reprend l'ordre de parole, pour moi en fait, on va dire que le lexique e-sportif devrait être nommé. Il faut que quelqu'un qui a vraiment figure de proue et légitimité définissent un lexique, parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup de choses. Le terme e-sport, pour moi, c'est la pratique du jeu vidéo compétitivement parlant, si on peut appeler ça comme ça. Donc l'e-sport amateur serait la pratique du jeu vidéo compétitif par des personnes qui ne sont pas rémunérées, sachant que amateur en France est le contraire de professionnel, et que professionnel est synonyme de contrat et de rémunération. Donc je dirais que c'est les gens qui jouent pour le plaisir, mais à niveau compétitif, au jeu vidéo, pour ma part.
Bah, je reprendrai un peu les termes d'Alexandre, en fait. Hein, l'e-sport amateur, l'e-sport, pour moi, c'est la pratique compétitive, oui, du jeu vidéo. Hein. Dans l'e-sport, on a Electronic Sport, faut se rappeler, il y a 20 ans, c'était un peu comme ça que ça s'appelait, ça a été contracté en e-sport. Donc ça reste une pratique compétitive d'un secteur, en l'occurrence le jeu vidéo. Pourquoi amateur ? Bah, amateur, tout simplement, c'est parce que c'est comme dans toute pratique ou quoi que ce soit, il y a des professionnels, certes, mais pour pouvoir avoir ces professionnels-là, il faut bien un départ. Et ce départ, ça reste ce qu'on peut trouver en territoire, c'est-à-dire des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui n'ont pas forcément un niveau à vocation de devenir professionnel ou grand joueur international, mais qui sont quand même là et font vivre un petit peu ce tissu e-sportif français.
Bah, c'est vrai que de ce que tu me dis, ça me fait penser à un truc, c'est que dans le sport traditionnel, en fait, on commence par le tissu amateur, enfin vraiment le local, pour arriver vers à l'échelle internationale avec de très très grandes compétitions. Et dans l'e-sport, dans la structuration de l'e-sport plutôt, ça s'est fait différemment et j'ai l'impression que les choses se sont faites à l'envers. Qu'est-ce que vous en pensez ? Êtes-vous d'accord avec ça ?
Je ne sais pas si je dois enchaîner.
Ceci, vas-y, je t'en prie.
Mais effectivement, je pense que c'est un débat qui est déjà ouvert depuis pas mal d'années. Déjà, je me rappelle de mes tables rondes chez Paris e-sport et d'autres choses comme ça. Même à l'époque, quand j'étais encore en études, je parlais souvent de ce truc-là, de l'e-sport qui s'est structuré, comme tu dis, à l'envers. Donc, tu pars le haut. Et ça devenait très difficile, du coup, quand on voyait les contrats mirobolants de grandes équipes, de grands joueurs, etc., de ensuite prendre des nouveaux joueurs, on va dire, en association et essayer de les faire monter, sachant que eux voient déjà des grands contrats, se voient déjà, je dirais pas millionnaire, mais voilà, je suis bon donc je dois être payé. Alors que c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt tu rentres dans une asso, il faut que tu t'investisses, donc monétairement, mais aussi physiquement, voilà, faut que tu sois là, tu sois présent, tu t'entraînes, tout ça. Ah, donc c'est un peu un débat qui est ouvert depuis quelques temps, effectivement.
Bah, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai entendu récemment dans une vidéo YouTube qui a été faite à l'occasion de la Gamers Assembly. Il y a eu une table autour de la structuration de l'e-sport amateur, et il y avait un des deux intervenants qui avait parlé de ça, justement, du fait que la structuration de l'e-sport s'était faite un peu à l'envers, et que du coup, on a commencé en haut, enfin tout avec l'e-sport à l'échelle internationale, et puis c'est redescendu jusqu'à l'e-sport amateur, en fait, qui récolte les restes. Hein. Enfin, c'est comme ça que j'avais compris le truc. Hein.
Ouais, bah moi je peux rebondir sur ça si tu veux. Les deux intervenants, donc pour les citer, c'était Pierre McMahon, président des Orcs et représentant de l'UAEF, et David Canestrari, président de PCS Project Conquerors, et ancien, donc aujourd'hui ex-président président de l'UAEF au moment de la Gamers Assembly. Et effectivement, la structuration de l'e-sport, en fait, s'est fait dans le sens inverse de ce qu'on connaît, nous, dans des pratiques traditionnelles comme le sport, par exemple, que tu as très bien défini juste avant, parce qu'en fait, il y a eu une demande ministérielle à l'époque de la part de Mme Le Maire en 2016, au moment de la Gamers Assembly, justement, même pas de la PGW, me semble, si je ne dis pas de bêtises, voilà, pour mettre en place justement le numérique et France e-sport en France. Et en fait, France e-sport est devenue à ce moment-là une association à mission, en fait, pour venir être le référent du développement e-sportif au global en France pour les institutions. Et France e-sport, en fait, a donc juste travaillé avec les institutions, et des questions des institutions ont surtout été de savoir comment on est attractif avec l'e-sport, comment on met en avant les compétences françaises à travers le monde avec l'e-sport. Et pour répondre à cette question-là, bah, on pouvait parler que de la CIMES ou des 10% visibles de l'iceberg qui représentaient la partie professionnelle et ultra compétitive. Malheureusement, la plupart des gens, et aujourd'hui il y a 38,1 millions dans l'enquête médiamétrie de Nicolas Bézon qui s'appelle le baromètre France e-sport pour 2023, il y a 38,1 millions de pratiquants jeux vidéo déclarés, enfin reconnus, et dans ces 38,1 millions, il y a en termes de personnes au-dessus de 16 ans, plus de 15,6 millions de gens qui sont sensibles ou qui ont une appétence pour l'e-sport. Donc, ce qui signifie que c'est énormément de monde. Donc, il y avait aussi ce côté, comment on va sourcer et trouver les informations au niveau amateur, alors que c'est beaucoup plus simple au niveau professionnel et événementiel, parce que bah, les éditeurs, les promoteurs et les joueurs à ce niveau-là, il y en a beaucoup moins. Donc, il y avait un côté pratico-pratique et un côté répondre à une demande des institutions. Voilà.
D'accord.
Mais c'est très dommage après. Hein.
Ouais. Bah, en fait, j'avais déjà parlé de... Enfin, c'était Méziane qui avait parlé d'une des problématiques de l'e-sport amateur. Donc, depuis pas mal d'années maintenant, bah, l'e-sport amateur au sein de l'écosystème e-sportif a du mal à... Je sais pas comment dire ça, mais à trouver sa place au sein de cet écosystème e-sportif pour diverses raisons. Pouvez-vous me dire quelles sont les principales problématiques auxquelles les associations e-sportives font face au quotidien ?
Quand on pose la question sur une association, quel est son problème principal, en fait, elle va répondre les finances. Parce que une association, elle, alors c'est pas le cas de Moïka, hein, c'est pas le cas non plus de l'association Méziane, mais une association, elle a beaucoup de mal, sachant que c'est beaucoup de jeunes en fait qui vont créer des associations de 18 ans, qui ne connaissent rien, qui ont à peine ce côté acculturation en fait au système associatif ou que ce soit. En fait, ils vont pas savoir gérer leur truc, ils vont domicilier ça quelque part, chez papy, mamie, papa, maman ou quoi que ce soit. Et derrière, ils vont se dire, ok, ça y est, on a une association, maintenant on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut, du gaming, on va gagner de l'argent, etc. Et ça, c'est faux. Pour qu'une association aller des subventions, ça se passe pas en claquant des doigts, il y a tout un process à faire. Et ça se fait pas très rarement la première année, ou alors c'est des petites enveloppes. C'est pareil pour avoir du sponsoring ou quoi que ce soit, c'est des travails de fond, c'est travail par des personnes qui connaissent la chose, qui connaissent le terme. Et en fait, je pense que le principal souci de l'association amateur aujourd'hui, c'est le fait de ne pas connaître en fait tout simplement le système, de ne pas savoir ce qu'est une association de loi 1901, et surtout bah, de faire un petit peu tout à l'envers. Hein. Combien d'associations existent cette année, l'année prochaine on en aura autant, mais entre temps il y en aura la moitié qu'on aura fermé et une moitié qui se sera recréée. Et donc pour moi c'est ça le premier souci, c'est la non-compréhension du système associatif.
Pour rebondir sur ce que qu'a dit Tristan, excuse-moi je t'ai coupé peut-être, vas-y.
Non, j'allais dire qu'en fait là au jour d'aujourd'hui il y a à peu près 1200 associations sport qui existe sur le territoire français, mais parmi ces 1200 associations qui existent, il y en a, je pense, les trois quarts qui sont en activité, et puis, comme le disait Tristan, il y en a certaines qui ont fermé pour des raisons diverses et variées.
Alors, pour être plus précis dans les chiffres, à date, tu as 723 ou 750 associations enregistrées au registre national des associations avec la dénomination e-sport. Donc, si quelqu'un a une transversalité à l'e-sport et qu'il n'a pas nommé dans son objet les statuts, le terme e-sport, en fait, il ne va pas être reconnu officiellement dans la partie e-sport. On constate effectivement une création exponentielle d'associations depuis, on va dire, une dizaine d'années. Et pour être beaucoup plus précis en termes de chiffres, les trois dernières années, il y a eu quelque chose comme 460 à peu près associations e-sportives qui se sont créées, là où les 20 années précédentes de ces trois dernières années, il y en a à peine eu 200. Donc effectivement, c'est un phénomène de mode, c'est un boom. On a aussi le côté accessibilité de la création d'une association. Deux personnes suffisent pour créer une association, 15 minutes sur un site internet du gouvernement, et quelques jours après, vous recevez un RNA, un récépissé de déclaration, et vous pouvez lancer votre activité e-sportive.
Maintenant, place à la première pause musicale, l'Unity qui reprend le morceau Gods du groupe New Jeans. Sur Studio Zef, nous sommes toujours dans le quart d'heure e-sport dédié à l'e-sport amateur en France. Tout à l'heure avec Tristan, Méziane et Alexandre, on a parlé de ce qu'est l'e-sport amateur selon eux. Je vais poursuivre cette émission avec la seconde partie de l'interview autour des autres problématiques liées à l'e-sport amateur en France.
Donc le problème, il est dans l'information, dans la formation aussi des masses et des collectivités pour que les gens qui ont des compétences aillent renforcer les tissus associatifs existants pour pouvoir les faire gonfler et donc pérenniser la structuration territoriale de l'e-sport amateur. Parce que l'objectif, si on veut calquer le sport, vous en avez parlé tout à l'heure, bah, c'est d'avoir des clubs par ville, éventuellement plusieurs, et donc d'avoir des compétitions par district, par région, par département, etc., etc., et de remonter à une compétition amateur au national, voilà, en ayant une élite, limite, il y a destruction aujourd'hui. Je ne sais pas, tu seras très certainement d'accord, Tristan, mais PCS, Exalti ou Orcs qui vraiment tirent la bourre devant des associations parce qu'ils ont, comme tu dis, des finances, des moyens, du staff et puis qui sont là depuis très longtemps aussi. Ça fait partie aussi, voilà, ça fait partie des conditions. Après, pour parler effectivement des associations qui ferment sur les, on va dire, les 300 associations qui sont créées il y a trois ans, les 400 associations qui sont créées sur les trois dernières années, il y a à peu près un gros tiers qui ont fermé dans la première année. Pour rebondir sur la partie financière que tu as dit tout à l'heure, Tristan, il faut qu'une association en France ait 3 ans d'existence et à minima 2 comptes, enfin 2 résultats de comptes propres pour pouvoir aller demander de la subvention publique. Donc il y a ce vrai côté de on fait comment pendant 3 ans pour développer une association pour ensuite aller chercher des subventions publiques. Et c'est très difficile parce qu'effectivement, bah, au commencement, on n'a pas de notoriété, on a du mal à afficher ses compétences, à trouver des partenaires. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'associations qui se créent. Donc il y a une diabolisation entre guillemets des compétences ou des possibilités pour les interlocuteurs en face. Donc c'est pas un message positif que les associations renvoient. Aujourd'hui, on doit travailler aussi, et c'était une des questions que tu posais, à discipliner, comme je dis, le consommateur, donc les gens qui jouent aux jeux vidéo à niveau compétitif et qui rejoignent les associations. Déjà, de base, ils devraient tous rejoindre des associations et arrêter d'en créer, mais rejoindre des associations peut-être un petit peu plus grosses ou qui leur tiennent à cœur sur des territoires ou par affinité et aider ces associations à se développer. Le dernier point, et je te laisserai continuer, c'est que j'ai fait une enquête, moi, en 2023 sur les besoins associatifs, on va dire, et cette enquête, déjà, elle est disponible, c'est un livrable. Elle a été présentée à la PGW sur le stand de France eSport cette année, mercredi 1er novembre, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, elle traite donc la typologie, les domaines d'activité, la localisation, question fermée. Et ensuite, donc, on parle bien sûr des besoins financiers, où 98% des participants ont répondu qu'ils avaient des besoins, mais aussi des aides, la professionnalisation, donc les contrats eSport, les diplômes d'éducateurs spécialisés pour le staff, les supports de normalisation pour les events, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, une association, elle a besoin d'être guidée dans le développement et l'organisation d'événements pour que les compétences associatives soient reconnues par les professionnels et qu'on crédibilise le tissu associatif et que le tissu associatif puisse avoir des contrats à faire avec ce monde professionnel et développer donc son aspect, sa partie financière et limite être autosuffisant, quoi. Il y a toute la partie contact avec les institutions aussi, parce qu'aujourd'hui, bah, en tapant à la porte de sa mairie et en ayant une offre de service qui va aller dans le sens d'un besoin sur les territoires, donc que ce soit de la culture, du social, de l'inclusif, etc. Il y a d'autres enveloppes que la partie sport pour l'e-sport, et on peut quand même ramener l'outil qui est notre PC, notre console, etc. Pour dynamiser ou animer le sujet sur lequel on aurait décidé de plancher. Tu as tous les besoins structurels, donc bah, les RH, l'accompagnement, le développement, la partie légale, etc. Il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui administrativement et légalement ne sont pas dans les règles, et en fait, bah, tant que c'est une partie qui n'est pas suivie par l'État, ça ne pose pas de problème. Mais demain, s'il y a une veille de Bercy ou de n'importe qui, parce qu'il y a des inspecteurs, des lieutenants de police qui travaillent à des veilles sur les compétitions, par exemple, il peut y avoir des gens qui font la même chose sur les associations. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont manger des rappels à l'ordre et il y en a quelques-unes qui vont devoir fermer. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une problématique globale sur plein de sujets et je pense qu'il faut qu'on en parle, il faut qu'on se mette tous autour d'une table, qu'on ait un seul point de mise en avant des informations et que les compétences viennent de l'ensemble du tissu. C'est pour ça que je parlais de transversalité tout à l'heure, parce que bah, on doit avoir du soutien du niveau des équipes médicales, parce qu'il bah, y a des addictions, parce qu'il y a toute la partie ergonomie, ergothérapie, etc. Quand on est assis toute la journée, qu'on tape sur un clavier, qu'on tape sur une souris, etc. Il y a toute la partie mentale, psychologique, pareil avec des professionnels. Il y a la partie physique aussi, un corps sain dans un esprit sain, c'est pas moi qui l'ai dit, pour développer effectivement tout ça. Et pour terminer, le souci, c'est le côté, on va dire, motivation et objectif des associations. Elles se créent aujourd'hui en se disant, on va lancer des équipes, on va devenir compétitif et on va aller dans des ligues professionnelles. Il y a des exemples comme Project Conqueror, il pourra vous en parler, David, si vous allez le solliciter pour ça. Eux, ils ont gagné l'Open Tour de France, ils sont rentrés en Div 2 sur League of Legends et ils galèrent quand même à trouver des partenaires pour aller de l'avant. Donc, il faut aussi resituer la volonté de créer une association pour faire des sports amateurs et pas pour faire autre chose. Voilà. Mais je pense que j'ai dit beaucoup trop de choses, comme d'hab.
Ah, peut-être que Méziane a un peu de vue aussi, je pense.
C'est pas facile de rebondir sur tout ça, mais Alors déjà, on parlait de quoi? C'est la question, c'était les problématiques des associations e-sport, c'est bien ça?
C'est ça.
Effectivement, moi, bah, je pense que je vais prendre mon point de vue, celui de président de mon asso. C'est sûr que le premier point, c'est souvent les finances, le nerf de la guerre. Hein. L'argent, c'est le nerf de la guerre pour organiser, pour faire des choses. Mais je pense que depuis l'après-Covid, depuis le Covid plutôt, qui nous a bien, bien impacté, on a vraiment un aspect aussi, une problématique de staff, renouvellement du staff, comment on renouvelle les personnes qui se sont découragées après le Covid, c'est surtout ça notre problématique. On a eu une progression fulgurante de notre point de vue avant le Covid, où on organisait des tournois chaque mois, des weekly, que des tournois aussi chaque semaine. Puis ensuite, on a commencé à décrocher des contrats pour organiser des tournois plus importants, plus gros dans des châteaux forts. Et du coup, ensuite, on a dû annuler tous ces contrats à cause du Covid. Et après ça, ça a été difficile d'expliquer au staff, voilà, au bout d'un an, deux ans, de ne pas faire grand-chose. Comment les remotiver à travailler, les remotiver à s'investir, surtout. Et c'était ça qui était compliqué.
Je vais justement rebondir parce que tu as parlé de la partie Covid. C'est vrai que là, toute la période de Covid avec les confinements successifs, c'est vrai que ça n'a pas fait du bien aux associations e-sportives, notamment par la mise en place de compétitions e-sport. Parce qu'en fait, bah, forcément, bah, quand tu organises un tournoi, bah, tu as le risque qu'il soit annulé. Enfin, la majorité des compétitions étaient soit annulées, soit reportées, soit adaptées en ligne. Mais la version en ligne, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimal. Enfin, selon certains jeux, là, faire des compétitions en ligne, ça fonctionne très bien. Mais sur d'autres jeux, comme par exemple les jeux de combat, ça marche moins bien, en fait. Donc, pendant cette période de Covid, en fait, il y a eu toute cette phase de compétition en ligne. Et puis, mais par contre, quand les confinements se sont terminés, c'est là où toutes les compétitions en physique ont repris. Mais avec des conséquences plus ou moins complexes.
Après, je voulais juste peut-être ajouter un petit mot. C'est vrai que je rejoins totalement ce que disait Mwaka, disait Alexandre. Effectivement, un accompagnement vers justement peut-être plus de compétences, plus de peut-être de vision à moyen terme, long terme, c'est peut-être ce qui est important pour les nouvelles associations. Je me considère comme nouvelle association, on a à peu près 4-5 ans d'existence, et c'est vrai que ça, ce serait pas de refus cette histoire de s'asseoir autour d'une table pour discuter de où on va, comment on y va, avec qui. Ça, c'est effectivement un sujet qui me semble super important et crucial en ce moment.
Bah, le sujet de ma mandature de cette année en tant que président sur l'UAEF et du parallèle que j'ai fait avec Marie-Lou Paget qui travaille chez France e-sport et qui s'occupe de la partie structuration avec Samy Werfeli, en fait, est de retrouver les acteurs, être un peu ce leader, parce que ça fait longtemps que je suis là et je pense que tous les anciens au minimum connaissent, et même les nouveaux, ils savent qui est Metallic, au moins de nom. Et en fait, ça peut me permettre, de par ma position, mon passif, mes connaissances, mon réseau, tout ce que tu veux, et ma fiabilité, de pouvoir réunir les acteurs du tissu associatif auprès de France e-sport et de dire, ok, demain, le ministère, il va nous poser des questions, comment on y répond ? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme livrable, ce que je disais tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on a, nous, comme support sur lequel les ministères vont pouvoir s'appuyer sur nos dires, parce que les paroles, c'est quelque chose, mais les actes, c'est beaucoup mieux. Dans la vie, il faut dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Donc, l'objectif pour l'UAEF, en tout cas, cette année, ça sera, comme tout le monde, d'avoir de plus en plus de RH, donc du recrutement, du recensement, mais parce qu'on a des projets à faire. Les groupes de travail, bien évidemment, comme les membres des structures, c'est le nerf de la guerre après l'argent, même je dirais plutôt avant l'argent, parce que si tu n'as personne pour entertainer ta structure, t'auras beau avoir des sous, ça ne va pas servir à grand-chose. Ensuite, on a, alors je vais mettre en avant le travail de Tristan sur ces compétitions nationales, fédérales, comme il les appelle, mais on va aussi, nous, créer des compétitions pour le circuit associatif amateur, de façon à remplir ce vide qu'il existe pour le tissu associatif. Donc ça ne sera pas une compétition amateur, ça ne sera pas une compétition professionnelle, ça sera vraiment une compétition réservée uniquement aux structures associatives, donc storytelling à fond, administrée par les structures associatives du tissu associatif, castée, visibilité, en partenariat avec les éditeurs. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'officiel qui sera en dessous du niveau sub-top français et permettre aux structures d'avoir quelque chose à raconter aux partenaires qu'elles vont aller contacter, au-delà de tout ce qu'elles font à côté. Comme tu as dit après, brander l'image des structures un peu comme des marques, d'avoir des offres de services, c'est-à-dire que aujourd'hui, toi, tu es bon en organisation des événements, événements, bah, tu peux proposer tes services comme administrateur de tournoi, administrateur ou organisateur de LAN ou de festival en local sur ta collectivité, on va dire, ou ton département. Parce qu'après, bon, en région, des fois, ça fait un peu loin de se déplacer, mais au moins en départemental, ça, c'est jouable. Et donc, du fait de la territorialisation départementale, on peut derrière récupérer les acteurs par ville et faire des championnats de district, de national, de département, de, je sais pas, bon, ça, la 12e div, la 20e div, on s'en fout, et entertainer tout le monde. Voilà. Les thématiques abordées, bah, c'est toutes celles qui ont été précitées dans l'enquête qui a été faite cette année pour Francisport d'ailleurs. Et donc, on va essayer de développer tous ces thèmes qui sont pour moi des généralités. Mais chaque généralité a ses spécificités. En l'occurrence, la problématique financière, par exemple, n'est pas un thème en soi, mais plusieurs thèmes. Parce qu'il y a, comme tu dis, quelles sont les motivations à la création d'une structure, vers quoi on dirige, quels sont les services ou pourquoi on crée cette structure. Il y a les gens qui sont déjà existants, comment valoriser leurs compétences et essayer de développer leur réseau pour pouvoir faire des contrats. Et puis, tu as les anciens qui sont là et comment nous, on peut transférer ou transmettre nos compétences ou nos connaissances au tissu associatif pour qu'il se développe sereinement et pérennement. C'est pour ça que aussi bien toi, Méziane, que toi, Tristan, mais de toute façon, Tristan, je t'aurais contacté en tant que président à président, il y aura effectivement cette réflexion de table ronde des acteurs cette année, donc en 2024, pour trouver la place, ça a été dit tout à l'heure, le positionnement du tissu amateur dans l'écosystème e-sportif et dans, on va dire, la gérance de tout ce petit monde. Quoi. Voilà.
Avec plaisir.
Pareillement.
C'était la seconde partie de l'interview. Maintenant, place à la seconde pause musicale. Proper Velains qui remixe le morceau Orbit de Childish Gambino.
I want you to know that I'm ready to go. Heartbeat, my heartbeat. I want you to know whenever you are around. Can't speak, I can't speak. Skinny tie and a cuff type. He gonna make breakfast. You walk around naked. I might just text you. Turn your phone over when it's all over. No settling down. My text go to your screen. You know better than that. I come around when you least expect me. I'm sitting at the bar when your glass is empty. You thinking that the song's coming on to set me. I need to be alone like the way you left me. You start calling. You start crying. I come over. I'm inside you. I can't find you. The girl that I once had. But the text that we have isn't half bad. Text say that it's not fair. That's cold boy, he's not here. And I'ma flirt with this new girl, and I'ma call if it don't work. So we fuck till it comes to conclusions. All the things that we thought we were losing. I'm a ghost and you know this. That's why we broke up in the first place. Cause
I want you to know.
Thursday, I know that you hurt, but you don't want the same thing. Well, till you play that game. So I'm chilling with my girlfriend. She not my real girlfriend. She got a key to my place, but she not my real girlfriend. Stupid, so dummy. Say the wrong thing and wrong girls come running. I'm paranoid that these girls want something from me. And it's hard to make a dime go 100. And my dude freaking out over a worse fate. She on time, but she late for their first date. Cause he went and tried out a new condom. Flipped off in a threesome. Good problems, right, wrong. Asking them if she don't wanna play games. We the Super Smash Brothers, but none of them you. I'm in the sex when you kiss, when that's when you grew. 69 and the only gen number two. I was wrong, but would you have listened to you? You were crazy. I got a heart with the artichoke. It's only thing girls want when you're in that smoking light.
I want you to know that I'm ready to go. Heartbeat, my heartbeat. I want you to know whenever you are around. Can't speak, I can't speak. I want you to know that I'm ready to go. Heartbeat.
retour sur Studio ZEF, nous sommes toujours dans le quart d'heure e-sport dédié à l'e-sport amateur en France. Tout à l'heure, avec Tristan, Méziane et Alexandre, on a parlé des autres problématiques présentes dans l'e-sport amateur en France, notamment de la motivation des associations e-sport amateur et de leurs objectifs sur le moyen et long terme. Je vais poursuivre cette émission avec la troisième partie de l'interview autour des autres problématiques liées à l'e-sport amateur en France.
C'est vrai qu'il y a énormément de choses qui ont été dites. Et tu as parlé, Alexandre, notamment de la question du territoire. Et en fait, ce que j'avais remarqué, c'est qu'en fait, selon le territoire dans lequel on est, par rapport au soutien de la part des collectivités territoriales, que ce soit, par exemple, pour la demande de subventions ou autre, j'ai remarqué que c'était pas toujours très égalitaire.
Totalement inégalitaire. Alors, il y a plusieurs points. On peut citer France e-sport déjà de base qui a créé depuis l'année dernière des antennes régionales, donc par région, région sud, région Bretagne, région nord, etc. Il y a deux antennes aujourd'hui qui ont été créées et qui le sont depuis un an, c'est la région sud, ex-PACA, et la région Île-de-France. Et effectivement, sur les autres territoires, par exemple Grand Est, on sait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de moyens au niveau de la région et que la région, elle a envie d'y aller, mais elle ne sait pas comment faire financièrement parlant. Je dirais que c'est plutôt un problème sociétal de développement rural, en fait, parce que aujourd'hui, dans les villages, tu n'as plus de tabac, t'as plus de poste, t'as plus de boulangerie, etc. C'est la même chose, en fait. Si t'as pas de joueurs sur un territoire, comment tu dynamises ce territoire? Ou si t'as pas d'habitants, comment tu dynamises le territoire? Si t'as pas de personnes pour se déplacer, parce que dans les zones rurales, les villages sont tous les 10-15 km, donc il faut pouvoir se déplacer, avoir un véhicule ou un moyen de transport. Alors que dans les zones urbaines ou les grandes agglomérations, on a des transports en commun très accessibles, etc. Donc il y a aussi toutes ces problématiques effectivement qui font qu'il y a des inégalités et qu'aujourd'hui le système qui est mis en place, je ne le remets pas en question, dans le sens où je trouve que c'est intéressant d'avoir le tissu représentatif d'une région qui vient mettre en avant ces problématiques pour pouvoir les traiter. Par contre, je pense qu'il va falloir repenser au global l'accompagnement dans ces territoires où effectivement les finances ne sont pas au rendez-vous, parce qu'on ne parle que de ça en fait. La volonté des élus, elle existe, mais c'est juste les moyens qui ne sont pas disponibles. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut aller taper directement au niveau des ministères pour pouvoir englober la demande au national et avoir une réponse par typologie ou projet. Donc des projets associatifs, par exemple, qui ont attrait à l'e-sport et qui rentreraient dans un financement ministériel par enveloppe. Donc je ne sais pas, on dirait il y a 10 000 euros, par exemple, par projet, et une association, loi 1901, déclarée avec 3 ans d'existence et un projet, quel qu'il soit, autour de l'e-sport, aurait une chance de pouvoir présenter ce projet et d'être financé. Voilà les objectifs aujourd'hui. Si on devait dévoiler nos cartes sans en donner le cheminement, ce serait ce que moi j'aurais à proposer cette année. Voilà.
D'accord. C'est vrai que là, je prends deux cas de la région Centre-Val-de-Loire, donc dans la région dans laquelle j'habite. Donc en fait, nous, l'écosystème sportif en région Centre-Val-de-Loire, nous se concentre principalement sur Tours. Parce qu'à Tours, en fait, en 2015, jusqu'à la période Covid, il y a eu la DreamHack Tour, qui est quand même une grosse compétition, une grosse LAN sur Tours, qui a permis derrière d'avoir des acteurs de l'écosystème e-sportif qui sont implantés dans Tours, et ça a permis notamment l'implantation de Solary, entre autres, mais aussi de tout un tas d'autres acteurs qui travaillent autour de e-sport. Il y a même des médias e-sport qui sont localisés à Tours aussi. Et en fait, quand tu regardes aussi dans d'autres régions, par exemple comme en région Nouvelle-Aquitaine, notamment du côté de Poitiers ou vraiment dans l'agglomération poitevine, en fait, Grand Poitiers s'est associé directement avec l'association e-sport qui était déjà en place, qui est Orcs Grand Poitiers. Du coup, il y a aussi cet exemple-là qui est aussi important, le lien entre une collectivité territoriale et aussi une association qui est déjà présente sur son territoire.
Oui, effectivement, c'est historiquement les premiers à avoir une association loi 1901 qui a un partenariat officiel avec une collectivité territoriale. Tu les as cités, c'est Orcs Grand Poitiers. Voilà. C'est un exemple aujourd'hui pour des développements d'associations. Donc, on en revient à mon petit schéma de tout à l'heure. Un, tu veux créer une structure, tu es sur un territoire, va d'abord voir les élus, le département, la région, la collectivité de communes ou le maire pour voir s'ils ont des projets qui peuvent correspondre avec ta volonté, ce qui va te permettre de ne pas te casser la gueule en créant une structure et puis derrière te rendre compte qu'en fait, il y a déjà quelque chose qui est en place et que les gens ont déjà des négociations ou sont déjà implantés ou que même il n'y a aucune volonté d'aller dans ce sens-là sur le territoire. Donc, ça, c'est encore encore une fois, on va dire, responsabiliser et éduquer les masses. Ensuite, tu as le mec qui est déjà en place depuis un certain temps avec sa structure, qui ne connaissait pas forcément la territorialisation ou l'accompagnement des collectivités sur les territoires pour les aider dans le développement du numérique. Hein, parce que aujourd'hui, c'est aussi une ordonnance ministérielle que de développer le numérique. Donc, il y a cette possibilité-là pour les structures d'aller contacter les gens. Et puis, tu as ceux qui, comme, je ne sais pas, les grosses structures, Restart, pour moi, c'est quand même une structure qui tient la route, nous, Metallic ou d'autres, qui pourraient s'attacher avec des collectivités. Moi, je travaille avec la ville sur laquelle je suis domicilié depuis plein de temps. On est co-organisateur du plus gros festival culturel autour de l'espace et de la science, qui est le Stars Up à Meudon. Et on travaille avec l'école du numérique, l'éducation, les élèves de collège. On fait plein de trucs dans ce sens-là. Et c'est pour moi une des facettes de compétences qu'aujourd'hui les associations devraient aller mettre en avant et chercher. Alors bien évidemment, sur les territoires, on va être confronté à la problématique politique. Il y a une grande partie de mairies qui ne sont pas du bord gouvernemental. Et on a déjà entendu, nous, des associations qui sont venues nous remonter leurs problématiques et de nous dire que le maire est, PS, et il n'en a rien à faire de ce que dit M. Macron, et lui n'aime pas les jeux vidéo. Donc le numérique, il va le développer pour ses administrés, pour les accompagner avec toute la dématérialisation des services de l'État, mais il ne fera pas de jeux vidéo dans sa ville. Et donc, quand on est confronté à ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est vrai qu'il y a une vraie éducation, une vraie réflexion. Il y a aussi les institutions qui doivent jouer le jeu et transmettre les informations en ramification vers le bas jusqu'aux mairies, de façon à ce que cet ancrage puisse prendre partout et de la même façon. Et là, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure sur les inégalités. Et les inégalités, en fait, elles peuvent être gommées sur la méthodologie et les applications qu'on va réussir à insuffler au ministère qui dira « Ok, on y va ». Et en l'occurrence, le ministère des Sports. Voilà.
C'est vrai que quand tu crées une association, tu n'as pas de référentiel en fait, sur lesquels tu vas créer ton association. Mais quand tu vas voir ta mairie ou ton département, qu'importe, il n'existe pas de référentiel en tant que tel sur lequel une mairie ou une collectivité territoriale, une institution de manière générale, ils peuvent s'appuyer pour...
Le souci, c'est justement, tu vois, et c'est bien mon problème, et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de centraliser l'information. Le souci aujourd'hui, c'est que tous ces documents-là, ils existent. Il y a le guide du dirigeant, il y a le guide de la réponse à l'appel à projet et de l'appel à manifestation d'intérêt, il y a le guide d'organisation événementielle, etc. Il y a plein d'acteurs qui ont ce genre de livrables. Par contre, quand on cherche ces livrables, on ne les trouve pas parce qu'ils ne sont pas mis en avant ou c'est mal balisé pour l'utilisateur, le consommateur. Et aujourd'hui, l'objectif aussi de cette année de présidence sera de récupérer le travail de tout le tissu associatif concernant ces livrables-là pour éviter de refaire 3 fois, 4 fois, 10 fois le même boulot, de le mettre à un seul endroit et que soient crédités les gens qui ont travaillé pour ces documents. Mais aujourd'hui, on doit dire au tissu associatif, vous cherchez des informations, vous allez sur www.associationtousensemble.com, j'ai une connerie, et là-bas, vous aurez les infos, l'annuaire, la carto, les machins, les trucs, et tout le monde ira là-bas. Et tous les acteurs qui vont créer du livrable, de la data, de la documentation, se rapprocheront de ce collectif associatif global, qui sera pour moi un représentant syndical auprès de l'État pour défendre les droits des associations et alimenteront, donc ce sera le tissu associatif pour le tissu associatif par le tissu associatif, alimenteront cette base de données. Et aujourd'hui, comme je te le dis, on a des livrables, si tu veux, je peux te les envoyer tout de suite, mais les gens ne savent pas où les chercher. Donc c'est une vraie problématique d'éducation. Et on en revient encore à un débat disciplinaire, dans le sens où tous les sujets sont transversaux. Et quand tu abordes un sujet, tu es obligé de toucher les autres. Et c'est pour ça que je parle beaucoup. C'est parce qu'en fait, tu ne peux pas dire « oui, on va développer les assos, mais on ne réfléchit pas à pourquoi elles se créent, comment elles se créent pourquoi ?» aussi, en retournant la question dans l'autre sens, etc., etc. Donc voilà, pour moi, ça commence par l'éducation, et l'éducation passe par l'information. Donc effectivement, avoir des livrables, créer ce qui manque, et baliser partout en disant « c'est là, vous pouvez tout trouver ici ». Et que derrière, si c'est, Restart qui a créé le document, il y aura une redirection vers le site de Restart, ça permettra de faire connaître l'association, de télécharger le document, et d'avoir l'information qu'on recherche sans se prendre la tête. Et en plus de ça, les gens savent que Restart ayant créé ce document, s'ils ont une demande particulière, ils peuvent aller solliciter ces gens-là parce que le tissu associatif, bah, il est main dans la main, il travaille à se développer. Et aujourd'hui, bah, j'ai déjà entendu une ou deux fois, mais j'ai rarement entendu dire à une association, je veux pas aider une autre association, en fait. Voilà.
Ça me donne tout ça envie de rebondir sur un point que tu as soulevé quand tu parlais des collèges, de l'information, parce que tu parlais forcément de l'information au niveau des politiques, mais j'ai envie aussi de parler de l'information au niveau des joueurs eux-mêmes, joueurs et joueuses d'ailleurs, parce que j'ai été souvent confronté à ce schéma-là. En fait, les gens ne savent pas forcément ce que c'est être une association dans l'e-sport, et qu'est-ce que c'est l'e-sport quand tu veux t'inscrire dans une association. En général, le discours de certaines personnes, c'est bah écoute, moi je viens dans votre asso, je veux jouer à tel jeu, et en plus je veux que tu me payes. Je schématise très grossièrement, bien évidemment, c'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, je pense que c'est aussi très important d'expliquer ce truc-là, de qu'est-ce qu'une association, pourquoi elle est là, pourquoi c'est important de t'investir dans ton territoire. Voilà, ça c'est, je pense, le rôle des associations aussi. Mais c'est vrai que c'est parfois difficile à dire, cette sorte d'ego de certaines personnes, en fait, parfois, qui ne comprennent juste pas. Comment ça? C'est-à-dire, j'ai rentré dans une association, donc je dois payer une adhésion. Comment ça?
C'était la troisième partie de l'interview. Maintenant, place à la troisième pause musicale, le morceau Nemesis de The Fatra. Sur Studio Zef, nous sommes toujours dans le quart d'heure e-sport dédié à l'e-sport amateur en France. Tout à l'heure, avec Tristan, Méziane et Alexandre, on a parlé des autres problématiques présentes dans l'e-sport amateur en France, notamment des questions territoriales dans l'e-sport amateur. Je vais poursuivre cette émission avec la quatrième partie de cette interview sur l'e-sport amateur en France, notamment avec la question de l'adhésion au sein des associations e-sport.
Comment ça se fait?
Non, mais tu soulèves le problème principal, et pour moi, administrativement parlant, les associations qui font pas payer leurs adhésions font une erreur, mais encore une fois, elles ont le droit de ne pas faire payer leur adhésion, donc elles sont légitimes dans leur décision, et c'est là où avoir un consortium avec des gens qui n'ont pas le même état d'esprit et qui sont souverains chez eux, ça a été très compliqué. Je pense que Tristan pourra dire la même chose. Un consortium d'associations, c'est vraiment avoir des philosophies qui vont dans le même sens, et c'est très compliqué au niveau associatif. Voilà. Mais
des associations qui sont là et qui disent ah bah tu vois, vous faites payer une cotisation, mais n'importe quoi, le joueur il a pas à payer, et en fait tu dis bah ouais, mais je sais pas, dans le sport traditionnel tu payes pas 150 euros de licence, en fait tu payes 45 euros de licence de foot par exemple, et le reste tu le donnes à ton club en tant que cotisation annuelle pour lui permettre de vivre et lui permettre de t'avoir après autre chose en retour. Et en fait c'est ces mentalités là qu'on retrouve pas dans l'e-sport, qui sont très ancrés dans le sport traditionnel ou dans une association de culture, tout autre type d'association. Hein, le fait de payer une cotisation annuelle à 50, 100, 150 euros, c'est normal en fait partout, sauf dans l'e-sport. Dans l'e-sport, même si tu leur dis, bah, par exemple chez Ristart, la cotisation elle est de 20 euros annuelle, tu leur dis, bah ouais, bah, c'est 4 kebabs en fait. Tu mangeras pas 4 kebabs dans ton année, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, mais non, mais c'est quand même 20 euros, nanana, bah moi je vais aller jouer ailleurs. Et le pire, c'est qu'ils vont trouver des associations où c'est les présidents qui vont payer ou quoi que ce soit, et ou même des fois rien du tout, et puis derrière bah, ils vont être trop volatiles. En fait le joueur est beaucoup trop volatile pour que l'association amatrice en fait puisse perdurer et créer un projet stable ou quoi que ce soit si elle n'a pas le staff solide qui va avec.
Bah, je vais rebondir là-dessus parce qu'il y a des points qui sont assez intéressants, Tristan. Moi, je suis dans une radio associative, bon, c'est pas une association e-sport. On paye une adhésion chaque année. Donc, nous, chez Studio Zef, on paye 30 euros si on est une personne physique et 50 euros si on est une personne morale. Donc, pour nous, c'est normal de payer une adhésion. On a ça dans le sport, on a ça dans n'importe quelle association lambda. Et effectivement, c'est vrai que il y a des associations, effectivement, e-sport qui font payer des adhésions, d'autres non. Donc, déjà, c'est un point de divergence parmi tant d'autres. Après, effectivement, qui est des joueurs qui aient du mal à accepter le fait de payer une adhésion, ça je trouve ça. Enfin, je me dis, enfin, si cette personne va dans une autre association d'un autre domaine, elle va être obligée de payer une adhésion pour pouvoir adhérer à cette association-là.
Bah écoute, le problème, c'est encore une fois, c'est un ensemble de choses. Là, j'ai sorti une problématique, nous, qu'on a rencontrée à force de parler avec les associations françaises. Comme je t'ai dit, voilà, il y en a qui font, il y en a qui font pas. On a parlé on va dire, du business model sportif où effectivement, bah, quand tu dis à quelqu'un, mais quand tu vas jouer au basket, tu payes ta licence. Et en plus de payer ta licence, bah, tu payes ton club parce que tu es content qu'il soit ouvert pour que tu puisses venir utiliser le gymnase. Et en plus de ça, bah, tu vas à Decathlon ou je ne sais où acheter une paire de baskets, un short, un maillot, éventuellement un ballon et un bandeau pour la tête parce que tu as les cheveux longs. Donc, tu fais une dépense qui représente, je sais pas, 500 euros. Là où aujourd'hui, le jeu vidéo qui est ta passion, et pour laquelle tu as envie d'aller sur des trucs compétitifs, on te demanderait, alors nous on a l'adhésion basique à 20 balles, mais on a une adhésion e-sport à 35 euros par exemple, tu vois, pour que le joueur puisse rentrer dans un processus où la structure va financer à minima la place de son équipe ou de sa place personnelle. Et je trouve que c'est normal d'engager les gens, et tu l'as très bien dit Tristan, sur le côté volatile, parce que demain, toi, tu vas être sollicité par une structure professionnelle pour faire quelque chose parce qu'elle t'a repéré, et quand elle va regarder tes statistiques, tes chiffres, tes trucs, elle va dire, vous avez combien de membres, bah, tu vas lui dire, bah, j'en ai 100. Elle va dire, bah, vous pouvez me faire un listing de vos adhérents, et derrière, tu vas bégayer parce qu'en fait, les adhérents, tu n'en auras que 3. Et bah, ton contrat, il ne se fera pas parce que bah, en fait, tu as été gentil avec les gens et que, comme tu dis, bah, des fois, ça sort de ta poche et puis bah, que ce n'est pas grave parce qu'en fait, c'est toi qui es passionné et pas les gens qui viennent. Les gens sont intéressés et non passionnés. Et on en revient à l'éducation par la base, et etc. etc. Voilà.
Bah, c'est vrai que ça me fait penser à un point que tu as parlé, bah, du fait que justement, si jamais un joueur se fait recruter par une structure professionnelle, mais il y a aussi le manque de protection. Enfin, admettons, un joueur est...
Oui, tu parles de contractualisation. Écoute, nous, on a connu ça. Je pense qu'aujourd'hui, le tissu associatif doit avoir en tête qu'il a vocation à être le vivier de l'e-sport professionnel, que les structures associatives doivent travailler avec les institutions pour mettre en place des conventions ou des contrats amateurs et sportifs pour qu'ils puissent récupérer l'usufruit de tout le travail mis sur l'équipe, sur les déplacements en LAN, pour mettre en lumière le joueur ou l'équipe qui va se faire débaucher et qu'elle récupère une partie financière. Alors tout ça, c'est un gros travail effectivement et ça va prendre du temps à être mis en place, mais c'est des sujets qui ont été évoqués avec la DGE, qui ont été évoqués avec le ministère des Finances et qui font partie des solutions, nous en tout cas, des propositions qu'on va faire concernant le développement de l'e-sport amateur, parce qu'effectivement, on doit pouvoir encadrer les joueurs. Ça nous est arrivé à titre personnel d'avoir des joueurs qui ont des très bons niveaux amateurs et qui mettent des claques à des joueurs professionnels. Et donc, forcément, fin de saison, fin de compétition, bah, ils partent. Mais nous, on a toujours été contents pour ces joueurs qui partent. La dernière en date, c'est Sana, Sarah Breton, qui est la top laneuse de l'équipe Géo féminine, qui a gagné la Coupe des Étoiles sur League of Legends, finale à la PGW, et qui a été MVP de la finale, top laneuse, je l'ai dit, qui était chez nous, et qui a vécu sa première LAN amateur avec Metallic, avec une équipe féminine sur League of Legends à la GA en 2019. Donc, on a vocation à sortir du lot. Comme les clubs, quand tu as un club en région, il va voir un super joueur, le mec, il a un réseau, il est en contact avec un recruteur du Paris Saint-Germain, de Nantes, de Reims, de Lens, de tout ce que tu veux. Il va dire, bah voilà, tu as un club de formation, il y a un petit jeune, viens le voir, ou tiens, je t'envoie une vidéo, et hop, le mec, il est propulsé, et il rentre dans un club de formation. Ça ne veut pas dire qu'il finira joueur pro, mais il a un cursus. Aujourd'hui, ce cursus n'existe pas dans l'e-sport. Aujourd'hui, tu es chez toi, tu joues, tu es bon, tu vas trouver une bande de potes, tu vas te confronter à des équipes, tu vas perdre. Mais tu es assez bon pour que tes potes à toi, ils ont envie d'aller chercher des structures. La première démarche que les gens vont faire, c'est association. Pourquoi? Parce qu'une association, pour un joueur lambda, c'est atteignable. C'est-à-dire qu'il a plus de facilité à contacter un président de structure comme moi, Tristan ou Méziane, parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux. De 7 à 77 ans, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Donc, il va contacter une structure. Voilà, on a tel niveau, on a fait tel truc, machin, machin, comme il a dit, machin. Et ben, moi, je te dis, il faut engager. Il faut aujourd'hui, même limite, que ça devienne dans les associations e-sportive quelque chose d'obligatoire, faire en sorte que les gens payent même 20 euros par an une cotisation. Et comme tu l'as dit, dans n'importe quelle association où tu vas aller, dans la radio, dans le jeu vidéo, dans le sport, mais dans la culture, dans des clubs de cartes, de lecture, de voitures, de pilotage, de tout ce que tu veux, il y a des associations parce que c'est ce qui permet d'avoir des frais de fonctionnement, des frais de gestion. Et aujourd'hui, si déjà les associations n'ont pas ça, comment elles veulent aller chercher autre chose, en fait ? Donc, structurons par la base, au lieu de structurer à l'envers comme l'e-sport a été structuré en France, et remettons administrativement les associations dans un ordre de droit stable pour qu'elles puissent derrière aller solliciter des subventions, faire des dossiers de présentation, avoir des livrables, avoir envie de travailler et de développer son écosystème soi-même, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Et si les acteurs, ce n'est pas nous, ben c'est qui ? Si demain, on laisse la main à des gens qui dirigent notre pays et qui n'ont aucune notion de ce qu'est l'e-sport, ce qu'est le numérique et ce qui sera dans quelques années, quand eux ne seront plus, je suis désolé, mais on va dans une voie de garage. Donc, il faut qu'on soit acteurs, nous, de ces mises en place, de ces changements. Et c'est pour ça que, comme je te dis, je réunirai tous les acteurs pour discuter de tous ces sujets, sélectionner ceux qui sont primordiaux et capitaux pour le développement et le bien-être des structures à court terme, et on ira les porter au ministère pour pouvoir mettre en place les solutions.
Après, y a une autre problématique qui n'a pas été abordée pour moi, c'est le manque de cadre juridique dans l'e-sport. Parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment... Enfin, il existe quelques lois autour de l'e-sport, mais il n'y en a pas tant que ça. Enfin, il y a déjà eu une première loi, c'était en 2016 ou 2017, pour dissocier l'e-sport, les compétitions de jeux vidéo, de la loterie et du jeu de hasard, qui est quand même un premier pas dans l'e-sport en France.
Ouais, mais c'est à la demande de Madame Le Maire qu'il y a des choses qui ont commencé à bouger. Après, tu as eu Monsieur Majoubi, Axel Le Maire, et puis après, Denis Masseglia, aujourd'hui, qui continue tout ce travail... on va dire, de fourmis au niveau législatif. Il y a la TVA qui a été réduite à 5 au lieu de 20 points sur les événements, la création d'événements e-sportifs. Donc, on espère que ça aura un impact aussi sur le prix des billets pour les consommateurs. Mais il est effectivement important de parler de la partie juridique. Il y a quelques cabinets, de plus en plus de cabinets même, d'avocats aujourd'hui qui travaillent sur ces problématiques-là. Il y a des structures qui se créent. On peut citer Game & Rules. Magali Dorado qui fait un travail intéressant. Mais pas que. Il y a aussi France e-sport qui essaye de sortir des livrables concernant des problématiques juridiques. Il y a des lois et des textes de loi qui sont négociés sur les freins économiques, par exemple les lois sur les cash prizes en ligne qui ont été discutées. Bon, c'est pas forcément la solution, mais la DGE discute avec le tissu associatif, les acteurs du tissu, sur les levées des freins économiques aux associations. Donc c'est intéressant. Il y a quand même des personnes qui vont dans le sens de ce que tu dis. Par contre, après, en termes de législation, tant qu'il n'y a pas de structure fédérale, ou de ministères, c'est très compliqué en fait de créer des lois en fait.
C'était la quatrième partie de l'interview. Maintenant place à la quatrième pause musicale, le morceau Ice Storm de Lindsey Stirling. We'll be right back. De retour sur Studio Zef, nous sommes toujours dans le quart d'heure e-sport dédié à l'e-sport amateur en France. Tout à l'heure, avec Tristan, Méziane et Alexandre, on a parlé de la question des adhésions au sein des associations e-sportives. Je vais poursuivre cette émission avec la cinquième et dernière partie de cette première émission sur l'e-sport amateur en France, notamment avec la question de l'écologie dans l'e-sport amateur.
Si tu veux, est-ce que ça appartient au numérique? Est-ce que ça appartient à la culture? Est-ce que ça appartient au sport? Tu vois, il y a beaucoup de ministères qui pourraient transversalement s'approprier l'e-sport. Et le souci, en fait, de l'État, c'est juste de créer une entité qui va diriger l'e-sport. Et comme ça, au moins, ça sera beaucoup plus simple de mettre des choses en place. Et tant que ça, c'est pas fait, bah, tu vas avoir que des tout petits changements, des petites modifications dans des lois ou des tout petits trucs, parce que, bah, on va dire, constitutionnellement parlant, c'est hyper compliqué aujourd'hui de sortir une loi qui ne parlerait que d'e-sport. Parce que l'e-sport n'a pas d'attache institutionnelle, si on peut dire ça.
Et surtout, je pense, peut-être quand tout sera d'accord aussi.
Bon, ça, c'est encore pire, ça.
je crois qu'il y a quelques années, on parlait de créer une sorte de nouveau CRA pour les joueurs, parce que c'est plus qui est.
Alors,
que
il existe.
Est-ce que... Oui, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Qu'il y a eu, il me semble, gain de cause pour certaines choses pour que ça bouge. Mais après, c'est sûr que voilà, les priorités d'une association ne sont pas les mêmes que les priorités d'une entreprise. Voilà, il y a plein de choses qui doivent être... voilà. Et si nous, on n'est pas forcément tous d'accord sur certains points, difficile aussi de venir montrer avec une sorte de... Voilà, un gros packaging à l'État, de dire, voilà, nous, on veut ça, nous, on veut ci. Mais non, moi, je veux pas parce que truc. Mais lui, voilà, c'est ça qui est compliqué, quoi.
Après, c'est vrai qu'il y a une vision de l'e-sport qui est complètement différente entre les différents acteurs. Déjà, quand les associations sont, e-sport sont créées, en fait, il y a des objectifs différents entre les unes et les autres. Donc, tu as certaines associations qui vont se concentrer sur l'organisation de tournois. Tu en as d'autres qui vont se concentrer sur l'accompagnement de joueurs. Et puis, tu as des associations qui veulent à terme devenir des entreprises, en fait. Donc, en fait, selon l'objectif de chaque association, en fait, ça n'a pas forcément tout le temps la même vision.
Bah, c'est là où les structures qui veulent devenir professionnelles devraient monter des startups et pas des associations. Parce que là, c'est le côté, je prends pas de risque, je monte une association, ça marche, bah, je développe en startup. Par contre, effectivement, bah, l'image, l'identité associative pour les acteurs extérieurs, bah, elle n'est pas claire et elle n'est pas identifiable. Et c'est, aujourd'hui, c'est ça, c'est créer une identité autour de la personne physique associative, si tu veux, pour que quelqu'un se dise, bah, écoute, moi, quand je vais aller vers une association e-sport, bah, ils sont capables de m'organiser ou de m'administrer des compétitions, ils sont capables de gérer des joueurs ou des équipes et de mettre en avant ma marque, ils sont capables de, je sais pas, faire de l'événementiel et animer des festivals, dont ce côté régie, etc. Enfin, voilà, mais qu'on ait un branding qui soit établi, et c'est ce que tu disais, je crois, vers le tout début, quelle est la place de l'e-sport amateur dans tout ça? Et en gros, aujourd'hui, il faut que les associations aient un branding, qu'elles servent, voilà, de passerelle entre le sport, l'e-sport semi-professionnel, professionnel, et le monsieur tout le monde dans son salon avec sa PlayStation. Il faut qu'on ait ce positionnement de vivier, de structures qui ne font que ça. Et si quelqu'un derrière a vocation à monter des équipes pour aller dans des ligues professionnelles, bah pour moi, aujourd'hui, tu as la possibilité de monter une start-up, en fait. Tu vas dans un business angel, tu montes une start-up, tu trouves des joueurs, tu trouves des financements et bah, tu vas dans des compétitions et tu essaies de gagner. Et si tu gagnes, tu auras d'autres financeurs qui vont venir rejoindre ton aventure. Mais si tu fais ça en associatif, bah, déjà, tu vas prendre le temps des gens, des joueurs. Tu vas leur faire perdre du temps parce que bah, tu auras des objectifs que eux n'auront peut-être pas. Parce que bah, toi, tu as les dents qui rayent le parquet et eux, ils sont juste là pour prendre du plaisir et éventuellement bah, sortir de leurs petites conditions de personnes sur leur canapé. Et deuxièmement, quand tu travailles avec des partenaires, c'est très important aussi de connaître la nature et la philosophie qu'ils ont dans leur réflexion de positionnement en tant que marque, etc. Enfin, aujourd'hui, nous, si tu veux, on a des partenaires qu'on refuse parce qu'on trouve que c'est pas écologique ou que c'est pas, t'affite pas avec l'état d'esprit associatif ou culturel ou social. Et donc, on préfère ne pas travailler avec les gens plutôt que de dire qu'on a fait des trucs avec une marque X ou Y, quoi.
C'est vrai que c'est important de travailler avec des partenaires dans lesquels on a des valeurs communes. Bah, tu parlais de l'écologie, justement, et je me posais la question, est-ce que l'e-sport amateur peut justement aussi avoir ce travail de sensibilisation autour de l'écologie dans le jeu vidéo ?
Bah, il y a plein de sujets transversaux, encore une fois. Déjà, chez toi, tu peux être RSE dans ta démarche, éco-responsable dans ta démarche, c'est-à-dire que bah, tu peux éteindre ton PC, pas le laisser allumer. Tu vois, des choses très très simples. Ensuite, les déplacements en LAN, quand tu peux mutualiser ton transport ou utiliser des transports alternatifs comme le train plutôt que la voiture, bah, tu vas réduire ton impact carbone aussi sur ton déplacement. Donc, avoir un vrai impact en disant, bah voilà, on est comme monsieur tout le monde, nous on se déplace parce que bah, tous les ans, tous les jours, même en France, tu as des dizaines de milliers de personnes qui prennent l'avion, qui prennent le train, qui prennent la voiture, même des centaines, voire des millions de personnes, tu vois. Quelle est, nous, la représentativité de cet impact sur l'impact carbone, par exemple, parce que celui-là, il est quantifiable. C'est des études qu'on est en train de porter, je ne te le cache pas. Donc ça, c'est quelque chose que l'e-sport peut faire. Ensuite, bah, tu as toute la partie transversale avec les gens qui vont récupérer les contingents de PC d'institutions, de clubs, de jeux, de machins, ou pour revaloriser les produits parce qu'ils sont encore viables, ou alors pour les mettre dans des filières de recyclage avec des acteurs comme Paprec, comment s'appelle, ou Veolia. Voilà. Donc, bah, y a de l'alu, il y a de l'or dans les composants informatiques, il y a du fer, il y a du plastique. Voilà, y a beaucoup de revalorisation possible. Ça, c'est aussi des actions qui sont menées par le tissu associatif. Et puis après, bah, tu as toute la partie qu'on appelle aujourd'hui RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Et là, bah, c'est tout ce qui est inclusif. Donc, aller présenter les écrans, le jeu vidéo dans des quartiers, sur les territoires, à des gens qui ne connaissent pas. Ça permet d'avoir des ateliers de prévention aux écrans, aux dangers, aux cyberdangers, de faire des triptyques parents-enfants éducateurs, parce que des fois, désamorcer un souci, l'enfant il va dire je veux faire du jeu vidéo, il vient à l'atelier, et puis derrière tu as le parent quand il pose son enfant et que l'enfant il joue, il te dit je peux vous parler 2 minutes, je sais pas comment faire à la maison, c'est impossible, etc. Ça, c'est des trucs qu'on a tous les jours, nous, à chaque fois qu'on a nos ateliers. Bon, donc on a des vraies responsabilités sociales, parce que là on a des rôles d'éducateur et limite de psychologue ou de thérapeute, quoi, au moins de médiateur, on va dire. Donc on en revient à la problématique de formation des gens qui vont accompagner ces gens là aujourd'hui il y a le STEPS qui fait la formation avec option e-sport. Donc ça permet aujourd'hui le BPJEPS d'avoir des animateurs spécialisés, et on peut surfer sur tout ça de façon à effectivement représenter tout le côté RSE éco-responsable de l'e-sport. Voilà. Et après, il y a plein d'autres projets, mais je pense que c'est beaucoup trop petit pour que ça ait une importance au global, quoi.
Est-ce que je peux rebondir sur un truc, ou alors c'est...
Tu peux rebondir.
Ok. En fait, il y a une... Je ne sais pas si tu avais ça en tête quand tu parlais d'écologie, quand tu as rebondi sur l'écologie. Est-ce que tu avais vu ce qui s'est passé à la Paris Games Week, quand on a eu des militants écologistes qui ont interrompu un match qui était en direct, rediffusé. Et donc forcément, ça a fait parler de personnes. Je trouvais ça intéressant. Peut-être, alors moi, je ne vais pas me cacher au niveau politique, je suis totalement pour l'écologie, aucun souci. Mais même au niveau politique, mais au niveau survie aussi. Je pense que c'est sûrement nécessaire, mais est-ce que c'était cette manière-là qu'il fallait prendre? Je ne sais pas. Est-ce que c'est forcément aux associations e-sport de s'engager dans l'écologie? Peut-être que ça devrait être, oui, effectivement, la nécessité de chacun, de tout le monde, en fait, de pousser au maximum de cette cause. Et par contre, oui, effectivement, je pense qu'il doit y avoir des priorités, peut-être. Peut-être écologie 2, peut-être. Et c'est vrai que nous, on est très confrontés au social, disait l'instant Alexandre. Et social, moi, effectivement, dans mon asso, quand on a eu des ateliers, on a eu tout simplement des jeunes qui viennent nous dire, écoute... Moi, à l'école, on me harcèle, il se passe ça, il se passe ça. Et quand on en parle aux parents, ils ne sont pas du tout au courant. Et c'est intéressant et je veux dire important de se rendre compte que, en fait, il y a des jeunes qui se livrent parce qu'on est en train de jouer aux jeux vidéo ensemble. Voilà. C'est ça qui est important, je pense, de pouvoir dénouer des langues ou dénouer des secrets parce qu'on est en train de jouer aux jeux vidéo ensemble. Je pense que c'est important et ça pourrait permettre effectivement de dédiaboliser tout ce qu'on peut penser autour du jeu vidéo, que ça enferme, que c'est ok, qu'il ne faut pas jouer, que machin, machin. Je pense que voilà, il y a plein d'aspects comme ça qui sont très importants.
Bah, c'est vrai, tu parlais justement de diabolisation du jeu vidéo. C'est vrai que pendant très 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 longtemps, le jeu vidéo a eu une mauvaise image. Donc effectivement, on dit que les gens se renferment, etc. Et puis j'ai l'impression que maintenant, cette image change avec le temps.
C'est encore une fois Emmanuel Macron qui a mis un petit coup de fouet à tout ça. Il y a 2 ans, il a invité tous les acteurs reconnus de l'e-sport issus de différents milieux. C'était un panel à peu près représentatif. Il y avait des associations aussi. Donc, c'est pour ça que je dis à peu près représentatif. Et c'est là où il a effectivement rappelé qu'il avait une politique de mise en place pour être attractivité numéro un mondiale sur le numérique et tout, et que l'e-sport faisait partie de sa campagne française d'attractivité mondiale. Et donc, à partir de là, en fait, tu as beaucoup de collectivités qui se sont intéressées à ça parce qu'elles font partie du parti politique d'Emmanuel Macron. Donc, elles ont voulu aller dans le sens de développement du président. Et on a commencé à voir depuis 2 ans à peu près beaucoup plus de démocratisation au niveau de la territorialisation, du développement local, etc. J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Méziane. Il faut aujourd'hui prendre conscience que quand on a une association et qu'on a la possibilité effectivement de travailler avec les gens, mais que ce soit sur un problème éco-responsable ou sociétal, parce que quand tu as des jeunes qui viennent et que derrière, te disent qu'ils sont harcelés ou je sais pas quoi, et qu'on voit qu'il y a un harcèlement sur 10 qui finit en suicide, effectivement, on a un positionnement qui va au-delà du jeu vidéo, quoi. Et c'est pour ça que je te dis que tout est transversal depuis le début. C'est qu'on a une responsabilité humanitaire avec un H à l'échelle de l'humanité vis-à-vis de nos enfants et des générations à venir, en fait. Et qu'on est une passerelle entre le citoyen, le monde connecté que j'appelle le digital, pour englober vraiment tout, tu vois. Et ça, c'est très, très important. Et les associations doivent brander, encore une fois, leur image en disant qu'elles ont ces compétences sociétales, relationnelles, etc. Et que grâce à l'outil, et Méziane l'a très bien défini, grâce à l'outil numérique, console, PC, écran, tablette, ce que tu veux, tu as la possibilité d'attirer déjà des publics et ensuite d'échanger avec eux sur toutes les problématiques de la vie, en fait. Et donc, les problématiques des collectivités en local. Le bus, c'est nul, il n'y en a pas. Il n'y a pas de lumière dans ma rue. Il y a des trous quand je promène mon chien. Il n'y a pas de garderie pour mon enfant, etc. Tout ça, c'est des problèmes qui intéressent les collectivités. Et les langues se délient effectivement quand les gens se sentent bien. Et le jeu vidéo, le numérique, l'écran, le digital est un produit d'appel pour cette partie sociale. Donc, c'est très important, effectivement, de développer ça aussi. Méziane, je te remercie d'avoir parlé de ça. C'était très, très un bon point. Voilà.
C'est la fin du quart d'heure e-sport sur la première partie de l'e-sport amateur en France sur Studio Zef. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette émission. D'ailleurs, cette émission et les anciennes émissions du quart d'heure e-sport sont disponibles sur studiozef.fr. Rendez-vous le 17 décembre prochain pour la seconde partie et fin de l'émission sur l'e-sport amateur en France sur Studio Zef. En attendant, retrouvez le quart d'heure e-sport sur Twitter, Instagram et aussi sur Discord. A très bientôt sur Studio Zef. Le quart d'heure e-sport, une émission sur l'actualité et l'agenda des tournois e-sport amateurs, semi-professionnels et professionnels, locaux, nationaux ou internationaux. Retrouvez-nous tous les dimanches à 13h sur le 91.1 FM pour Blois et ses environs, et aussi sur studiozef.fr. En attendant, retrouvez le quart d'heure e-sport sur Twitter, sur Instagram et aussi sur Discord.